Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se
lève. Salut Michel.
Bonjour Catherine, comment vas-tu?
Ben c'est, ça va bien. Ça va vite, mais ça va bien.
Écoute, je me pose des questions existentielles ce matin.
Ah oui, vas-y donc.
J'avais hâte d'entendre la conférence de presse des médecins traitants d'Anthony Stevenson hier à Québec pour me faire une petite idée. Mm-hmm. Et lorsque le médecin a révélé qu'Adonis souffrait d'un traumatisme crânio-cérébral grave et aura probablement des séquelles, je me posais deux questions. Puis je suis certain qu'il y a plein de gens qui nous écoutent ce matin qui, parmi leurs proches, ont vu des gens subir des accidents importants et se poser la question, quelle sorte de séquelles?
Oui.
Et si les séquelles sont graves, est-ce qu'on préférait que tout ça s'arrête, que l'accident aurait pu être fatal, plutôt que de voir un de ses proches diminuer et vivre quelque sorte comme un légume? Je dis pas que c'est ça que ça va se passer parce qu'on ne le sait pas et les médecins ne veulent pas se prononcer sur la gravité des séquelles.
Oui, mais sauf
mais
que...
Mais si t'es un proche...
Oui.
C'est un membre de sa famille, un ami, tu dis, tabarouette, quelle est la vision que je dois avoir d'un événement comme celle-là?
Ben oui, c'est sûr que c'est parce qu'en effet, tu sais pas, quand il va se réveiller, il va être comment? Parce que
il va être comment?
Parce que, Michel, dans les possibles séquelles là, qu'on nomme, là, dans les séquelles physiques, il y a une possibilité de diminution de la motricité, problème de coordination, ouais, perte d'équilibre, paralysie, diminution des sens. Sur l'aspect cognitif, tu peux avoir des problèmes d'attention, de concentration, troubles de mémoire, difficulté de jugement, de raisonnement, troubles de communication. Et dans le comportemental, tu peux avoir de l'agitation, de l'irritabilité, de l'agressivité, de la dépression et de la désinhibition. Ça en fait pas mal, là.
Ça en fait pas mal, puis on en parle parce que ça arrive à un sportif de haut niveau. Mais ça arrive pratiquement à tous les jours au Québec.
Absolument.
Puis, tu dis, puis on a une drôle de relation vis-à-vis ces blessures graves-là, les gens qui doivent vivre avec des séquelles, qui deviennent pas des problèmes, mais qui n'ont pas devant eux un avenir qui n'est pas très rose, tu sais. Fait que je me dis, tabarouette.
Mais Michel, t'entends...
J'étais là, puis je me disais, ça, tu sais...
Mais dans ta question...
Tu restes de même, ça te tente-tu?
Ouais, mais justement,
quand t'es un athlète de haut niveau?
Mais dans ta question existentielle, là, as-tu poussé ta réflexion à te poser la question à toi-même? Je ferais quoi si ça m'arrivait?
J'aimerais mieux partir à ce moment-là.
Oui?
Oui. Parce que lui, tu sais, même pour un individu normal, pour un monsieur tout le monde, même s'il a été un athlète de haut niveau, tu veux pas te voir de même. Tu veux pas vivre... diminuer à 60, 70, 80 %. Tu vis pourquoi à ce moment-là? Tu le dis que ça m'a porté à réfléchir hier quand
j'ai dit ça. Oui, mais t'as raison.
Puis c'est tout le drame qui se cache après un accident extrêmement grave qui laisse des traces.
Mais tu sais, Serge, tu peux y participer. Serge nous donne comme exemple Michael Schumacher. Qualité de vie, zéro open bar, là. Mm-hmm. Zéro. Puis, il est à peu près quoi? Semi-végétatif? Est-ce que je...
À peu près. Hein? Puis, tu sais, tu dis, bon, est-ce que tu dis, il n'y aurait pas mieux qu'il eût perdu la vie lors de cet accident de ski plutôt que de vivre demain?
Oui.
C'est la question que tout le monde se pose. Puis, tu sais, devant une situation comme celle-là, on est impuissant.
Oui, absolument.
On est impuissant, on ne sait pas quoi faire. Mais
tu sais, c'est le poids que tu sais que tu ajoutes à ta famille. Tu sais, sa conjointe, il y a des enfants, elle vient d'avoir un petit bébé de 3 semaines. Tu sais, mais la question se pose, Michel. Moi aussi, je serais en mode réflexion. Est-ce que je voudrais continuer comme ça? Je ne le sais pas, Michel. Je ne suis pas sûr.
Surtout, tu sais, lui, là, il y a une jeune famille.
Oui.
Tu sais, la petite fille là, qui va grandir, puis elle va voir son père.
Il y a 5 enfants, Michel.
Il y a 5, puis il y en a 4 autres, là,
ouais.
dans d'autres
Mais quand même, il y a 5 enfants.
Ces enfants-là voient leur père là, comme ça. Ouais. C'est très pénible. Je vais te dire une chose, c'est atroce. Ouais. Honnêtement, là.
Absolument. Bon.
Mais il fallait quand même que je te fasse part de ma réflexion là-dessus. Je me dis, ouais.
Non, c'est important de le faire. Et j'aime l'aspect que tu amènes. Oui, là, on parle d'un sportif de haut niveau, puis c'est pour ça que c'est très médiatisé. Mais à chaque semaine, probablement qu'en Mauricie, ça arrive à quelqu'un, à un proche.
Absolument.
Des gens qui vivent ça actuellement chez nous, là.
Puis ce n'est pas publicisé, ce n'est pas sur la place publique. Là, ils vivent ça, eux, là, en famille, quand ils en ont.
Voilà.
Ah, ouais. Ça te dit que c'est difficile. En tout cas, on ne peut jamais te lâcher le sujet, mais on va passer à un autre parce que c'est pas évident de parler.
Non,
de
ça. C'est pas évident.
Bon,
tu parlais du Canadien, pas du match autant que la valeur de l'équipe qui est à la hausse.
Pensais-tu quand le groupe de Jeff Molson a acheté le Canadien pour 600 millions il y a plusieurs années? Qu'ils auraient cru qu'en 2018, leur investissement vaudrait plus du double.
Ben non.
1,3 milliard de dollars. Ça, c'est quand même virtuel parce que tu ne l'as pas vendu. C'est une estimation de la valeur de l'équipe.
Ouais.
Mais lorsqu'on a des revenus par année de 239 millions de dollars, le placement en valait la peine. 239 millions de dollars de revenus selon Forbes. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ça serait sûrement plus si le Canadien connaissait du succès en série éliminatoire. Mais tu dis, écoute, là, 1,3 milliard. On demande maintenant 650 millions pour une équipe de l'expansion. Puis il y a seulement 11 des 31 concessions dans la Ligue nationale aujourd'hui qui ont une valeur au marché de 650 millions de dollars ou plus.
Mais pourquoi, Michel? C'était ma question, parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait... Oui, mais c'est parce que les Coyotes en valent 290. Pourquoi, si tu as une nouvelle franchise, faut que tu en payes 650?
Écoute, je pense que c'est une question d'offre et de demande.
Okay.
Écoute, il y a 12 équipes qui valent entre 350 et 500 millions. Puis il y a 19 équipes qui encaissent 150 millions de dollars de revenus et moins. Fait que tu dis, comment ça se fait? Mais l'écart, c'est comme dans la société, Catherine. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres continue de grandir. Tu regardes, là, la valeur des Coyotes, 290 millions. Les Panthers, 295 millions. Des Blue Jackets, 320. Les Sabres Buffalo, 375. Les Jets, 415. Et les Hurricanes de la Caroline, 420 millions. Tu te dis, si t'es un investisseur, tu te dis, moi, là, je vais pas investir 650 millions. Je peux-tu m'acheter une équipe qui est en difficulté, par exemple?
Ouais.
Je vais acheter Panthers de la Floride à 295 millions. Tu te dis, je paye la moitié, puis j'ai un club déjà qui est capable de compétitionner avec les meilleurs de la Ligue nationale.
Ouais,
sauf que Bettman va dire,
mais t'as des défis aussi, par exemple.
Attends un petit peu, là, on va avoir des frais de déménagement, parce que moi, là, j'ai promis, les propriétaires vont se mettre dans les poches, là, avec l'arrivée de Seattle, à peu près 18 millions de dollars chacun qui va venir gonfler les coffres de leur trésorerie. C'est pas rien, ça. S'ils voient une équipe déménager, ils vont dire, hey, écoute, là, le commissaire, là, tu peux pas permettre à un club de déménager. Garde-la en place. On peut payer peut-être, les dédommager à chaque année, mais tu m'assures qu'avec un club de l'expansion, je vais rentrer 18 puis 20 millions de dollars dans mes poches.
Mais Michel, c'est intéressant. Bon, on va terminer là-dessus. C'est intéressant ce que tu nous amènes là, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a juste Bettman qui décide de tout. Puis on sait bien, il veut pas déménager une équipe, mais les propriétaires ont de l'influence.
Ben, ils sont d'accord avec
ça. Ils perdent de l'argent. Ils font comme, non. Tu vas y garder là. Nous autres, une équipe de l'expansion, on aime bien ça. À Seattle, c'est parfait. Merci beaucoup. Bonsoir.
Ben, écoute, j'écoutais Jeff Molson. On est tellement contents.
Ben voilà.
On a voté à l'unanimité.
C'est
à toi qui arrive. Je suis plus riche de 18 millions aujourd'hui.
Ouais. Merci beaucoup.
Envoyez le cash. Ouais. Mais tu sais, là, c'est Yvon Penneault qui le disait ce matin, puis je trouve que c'est important dans le Journal de Montréal. Les seuls qui ont le pouvoir peut-être de forcer la main de la Ligue nationale à retourner dans des marchés de hockey en raison de l'escroc, de la portion de leur salaire qu'ils doivent laisser en fidéocommis, là, en garantie, pour s'assurer que les revenus sont à l'ordre. Ces joueurs disent non, là, c'est fini, vous allez nous payer notre plein prix. Au palais!
Au palais,
au palais! Puis
bon
là,
point.
C'est la seule raison pour laquelle il pourrait y avoir un conflit, parce que les joueurs peuvent pas se plaindre, là.
Non.
Ils font de l'argent comme jamais.
Ouais, on est bien d'accord.
Les joueurs de quatrième trio sont rendus qu'ils gagnent 1 million de dollars par année.
Oui.
Là, tu dis, même s'ils criaient au meurtre, le système leur a profité, mais ils ont encore le pouvoir entre les mains en cause de cette clause d'escrow-là.
Absolument.
Qui veut dire d'escompte, qu'on doit verser au propriétaire pour s'assurer des revenus. On n'en veut plus. Maintenant, vous allez peut-être obligé de vous tourner vers les marchés qui marchent bien et les faire fonctionner pour ne pas avoir à sortir de l'argent de vos poches parce que ce sont les joueurs qui financent ça actuellement et non pas les propriétaires. Okay. Les propriétaires ont tous les bons côtés de l'opération. Puis c'est les joueurs peut-être qui assument le pire côté.
OK, Michel, on se reparle du match de ce soir à Ottawa demain matin.
Mais je pense qu'on va voir un match très différent de mardi.
Oui, on verra. OK, on s'en reparle demain.
OK, salut, hey, bonne soirée. Bye-bye. Hey, bye-bye.
Bonne soirée. Michel, il est 7h54. Bon, bonne journée, là. On commence par la journée. À demain, Michel, 7h54.